Monsieur Nicolas Tsangai, bonjour.
Oui, bonjour.
Votre parti vient de vous investir candidat à la présidentielle et aux législatives de décembre 2020. Qu'est-ce que vous comptez apporter de plus aux Centrafricains?
Vous savez, je ne suis pas de ceux qui disent qu'ils font venir faire des miracles, mais je pense que très humblement, j'ai une vision, une offre politique présentée au peuple centrafricain. D'abord par rapport aux institutions, parce que moi je suis un démocrate et je voudrais que les institutions de la République centrafricaine fonctionnent correctement et que ces institutions soient au service du peuple centrafricain. Apporter aussi une nouvelle touche par rapport aux questions de sécurité, questions qui touchent aussi à la vie des centrafricains plus démunis, de voir dans quelle mesure lutter contre le chômage, contre la pauvreté, et faire en sorte que notre pays également soit respecté sur l'échiquier politique international.
La RCA fait face à des difficultés socio-économiques. Si vous êtes élu, quelle serait votre priorité?
85% du territoire de la RCA sont occupés par des groupes armés. Et ces groupes armés ont instauré des états parallèles. Autrement dit, ils lèvent des impôts, ils ont leur douane, leur service des impôts, le service des eaux et forêts, et ils ont des barrières illégales et donc ils prélèvent des sommes d'argent qui auraient dû normalement atterrir dans les caisses de l'État pour permettre à l'État de faire face à ses obligations régaliennes. Je pense qu'il est important de régler d'abord les questions de sécurité, permettre à l'État d'avoir toutes les recettes qui lui reviennent de droit pour faire face donc à ses obligations régaliennes.
Que faire selon vous pour mettre fin à l'insécurité dans le pays?
Pour mettre fin à l'insécurité dans le pays, moi j'ai une vision qui est diamétralement opposée à celle du président Touadéra. Parce que le président Touadéra dit que lui, il n'a pas été élu pour faire la guerre. Mais nous disons qu'un président élu est là pour défendre la population et pour défendre l'intégrité du territoire. C'est sa mission. Mais pour accomplir cette mission, il a à son service les forces armées, les forces de défense et de sécurité. Donc on ne peut pas aujourd'hui régler le problème de sécurité dans le pays si nous n'avons pas une armée ayant la capacité opérationnelle d'instaurer la paix dans le pays. Il n'existe pas aujourd'hui dans le monde un seul pays où ce sont des étrangers qui vont venir pour instaurer la paix. C'est toujours l'armée du pays, les forces de défense et de sécurité du pays qui peuvent protéger la population et restaurer l'autorité de l'État.
Et si c'était vous, qu'est-ce que vous allez faire concrètement?
Écoutez, aujourd'hui, nous avons à faire face à une situation où on n'a pas expliqué au peuple centrafricain sa capacité de faire face aux difficultés auxquelles il est confronté. Nous disons que on ne peut pas demander aux Centrafricains tout simplement d'accepter l'accord qui a été paraphé à Khartoum, signé à Bangui, et penser que c'est un accord qui va régler de façon définitive les problèmes en République centrafricaine. La situation exige des sacrifices. On ne peut pas, d'une part, avoir le gouvernement seul face aux groupes armés et penser que la paix va revenir dans le pays.
Vous avez parlé des sacrifices. Qu'est-ce que vous voulez dire précisément?
Ces sacrifices imposent, par exemple, que la place qui doit revenir aux forces de défense et de sécurité ne soit pas minimisée au niveau du budget national. Quand vous prenez la proportion qui est revenue, par exemple, pour cette année ou les années précédentes à la défense nationale, c'est une proportion qui est infime, d'une part. Et d'autre part, le gouvernement centrafricain ne fait pas ce qu'il faut, évidemment, pour qu'il y ait effectivement la levée de l'embargo. Et nous pensons qu'il ne suffit pas de dire qu'il y a des chars dans le pays. Nous attendons qu'une partie des 85% du territoire de la République centrafricaine soit effectivement libérée par ces soi-disant 20 chars livrés par la Russie à la République centrafricaine.
Monsieur Nicolas Tsangai, comment comptez-vous convaincre le peuple pour qu'il vous élira président de la République?
Mais le moment viendra, je pense que nous ne sommes pas encore en campagne. Je ne vais pas commencer par livrer maintenant ma vision des choses et l'offre politique que j'entends présenter au peuple centrafricain.
Vous avez été accusé d'être en connivence avec la rébellion de la Séléka qui a renversé François Bozizé. N'est-ce pas qu'un danger vous guette?
Je ne vois pas le danger qui me guette. Vous savez, moi je suis prêt pour la contradiction, pour le débat. Je crois que le président Djoto Dia est là à Bangui, allait lui poser la question de savoir est-ce que c'est avec Tiangai qu'il a chassé le président Bozizé. Il vous répondra immédiatement non. Quand les gens m'accusent, posez leur trois questions. Où Tiangai a rencontré les rebelles de la Séléka? quand il les a rencontrés et comment il les a rencontrés.
Peut-être c'est parce que vous étiez Premier ministre.
Mais j'étais aussi le Premier ministre de Bozizé, non? Pourquoi vous n'en parlez pas? J'étais Premier ministre d'un gouvernement d'union nationale découlant d'un accord politique. Je n'étais pas le Premier ministre de Diotou Dia, je n'étais pas son ami, et encore moins l'ami de Bozizé, puisque j'étais opposant. Alors donc, il faut que les gens disent, comment se fait-il que je sois Premier ministre en tant qu'opposant dans le gouvernement de François Bozizé? Quand on aura fini de poser cette question, on pourra maintenant poser la question de savoir pourquoi Tianga était Premier ministre dans le gouvernement de Diotou Dia. J'étais Premier ministre d'un gouvernement d'union nationale sur la base d'un accord politique signé le 11 janvier 2013 à Libreville.
Vous avez récemment dénoncé un certain nombre d'irrégularités dans le processus électoral. Mais aujourd'hui, vous êtes candidat. N'est-ce pas une manière pour vous de dire que tout va bien?
Vous savez, tout ce que nous avons dit, ce n'était pas pour nuire à qui que ce soit. Notre mission en tant qu'opposant ou en tant que citoyen, c'est de dire... Voilà ce qui ne marche pas. Les questions que nous avons évoquées, c'est quoi? C'est les questions qui portent sur l'enrôlement des électeurs. Est-ce que tous les Centrafricains en âge de voter et qui désirent participer aux élections, est-ce qu'ils ont tous été enrôlés? Nous disons non. Et ça, c'est pas une question d'être dans l'opposition.
Mais pourquoi non?
Est-ce que les gens ont été enrôlés dans la Nana Mambéré, dans l'Ouampindé, dans la Fakaka, dans le Omoumou? Et les gens veulent qu'on n'en parle pas. On ne doit pas écarter des gens. Quand vous prenez ces zones que je viens de citer, les groupes armés n'ont pas permis à nos compatriotes de s'inscrire sur les listes électorales. Donc ce sont des questions qui sont réelles. Ça n'a pas été inventé par l'opposition démocratique.
Et qu'en pensez-vous d'enrôlement des étrangers dans ce processus?
Mais les faux actes de naissance, là, il y a eu des chefs de quartier, des maires d'arrondissement qui ont reconnu que les actes de naissance, là, sont des faux actes de naissance. C'est la raison pour laquelle nous, au niveau de l'opposition, nous pensons qu'il est important de demander un audit du fichier électoral. Mais l'audit du fichier électoral, ce n'est pas seulement par rapport aux faux actes de naissance. La question du doublon, c'est quoi? La fraude se fait aussi au niveau des doublons, c'est-à-dire qu'une seule personne peut aller s'inscrire dans plusieurs bureaux de vote et au moment du vote, il va aller voter plusieurs fois.
Que répondez-vous à ceux qui pensent que Nicolas Tchangaï est toujours un contestataire? Hier, c'était le phare, front d'annulation pour la reprise des élections en 2011, et aujourd'hui, c'est la coalition de l'opposition.